conférence de William Clapier du 11 décembre.
Périlter en partage, ton groupe de recherche qui essaye un petit peu de traduire les intuitions du pape François dans Laudato Si, d'essayer de voir quel contenu on peut lui donner à travers les prolongements de diverses natures qui ont fleuri aussi dans notre culture contemporaine, en philosophie, en anthropologie, en spiritualité bien évidemment. Donc ce groupe essaye de se forger une culture commune, culture nécessaire par rapport au défi qui est celui que nous affrontons, celui de rebâtir un monde, parce qu'en fait on en est là, rebâtir ce monde et trouver quels sont les éléments, les ingrédients, les briques sur lesquelles nous allons pouvoir construire, reconstruire, j'allais presque dire, ce monde un petit peu en ruine. William va nous en parler à travers sa conférence, puisqu'elle est orientée un petit peu sur ce processus de, on va dire, d'effondrement et de redressement. Donc, première conférence, on a une autre le 4 février. Je vous le signale tout de suite, conférence qui sera consacrée à Jacques Ellul. Et ce sera Frédéric Grognon qui viendra nous parler de cette approche révolutionnaire et un petit peu prophétique aussi que Jacques Ellul a distillé il y a quelques 40 ans. Et donc, vous verrez que c'est très actuel et c'est complètement un ingrédient nécessaire pour cette fameuse reconstruction dont je viens de parler. Donc, cette soirée, on va l'organiser en trois temps. Un premier temps, ça va être la conférence de William. Ensuite, on essaiera de voir ensemble si on peut faire peut-être un, deux ou trois petits groupes pour essayer d'ensemble faire résonner ce qui a été marquant. Pierre, on en avait parlé tout à l'heure, je ne sais pas si on fait ce que tu avais dit, proposé, vu le nombre, puisque c'était un petit peu le nombre qui déterminait les groupes ou pas groupes. Donc c'est toi qui décideras.
On est juste à la jauge.
Bon, ben donc tu nous diras ce que toi tu penses nécessaire qu'on fait, si on fait un groupe ou pas groupe. Donc vous voyez, on est en situation d'apprentissage de la marche en marchant. On n'a rien préparé vraiment en amont, tous ensemble. Et puis, in fine, je vous le dis tout de suite, William a apporté quelques exemplaires de trois des ouvrages qu'il a publiés. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, ils peuvent venir et voir avec William pour acquérir un des exemplaires de ces trois ouvrages dont il va nous parler un peu plus longuement. Enfin, je ne sais pas, tu vas les citer dans ton exposé, mais bon, tu fais référence.
Oui, je ne vais pas les citer, mais bon, ça...
Voilà.
C'est issu un petit peu surtout des deux derniers.
Voilà. Donc, pour présenter William, on a quelques éléments là pour vous faire une petite bio de son parcours. Donc, William est auteur et conférencier. Il est aussi théologien. Donc, éveillé à la foi chrétienne au contact des spiritualités orientales et de la pratique de la méditation zen. Donc, tu as approfondi ensuite, dans un temps de vie religieuse, l'oraison carmélitaine, prière silencieuse. Et après, tu as fait un master en théologie à l'université de Fribourg en Suisse et tu as consacré ta thèse de théologie à Thérèse de Lisieux. Donc, tu t'es retrouvé à l'état laïque en 2007. À l'écoute de notre monde en mutation. Et ton engagement est à la croisée de la foi chrétienne, de la quête de sens et des défis sociétaux actuels, en particulier la problématique écologique. Et tu es très sensible à l'interspirituel et donc aussi à tout ce qui se joue, on va dire, à l'intérieur d'un ensemble qu'on peut appeler la francophonie. Et tu participes aussi en quelque sorte à l'émergence de la théologie de l'écologie, puisqu'on fait partie d'un même groupe de recherche tous les deux. Mais on ne s'était pas vu en chair et en os. On avait participé en visio depuis quelque temps, tous les deux. Donc on est très contents de se rencontrer aujourd'hui. Donc, théologie de l'écologie. Et tu es aussi en lien avec les Chrétiens Unis pour la Terre. Le mouvement Laudato Si, dont tu m'as dit que tu étais hier en relation avec eux pour un bilan, c'est ça?
C'est ça, suite à la COP 30.
Suite à la COP 30. Et puis du groupe interspirituel du Forum 104 à Paris. Donc, il y a un forum que j'aime beaucoup, qui a publié aussi un certain nombre d'ouvrages intéressants, sous la houlette de Christine Christophe, sur l'éco-spiritualité en particulier. Donc voilà, donc tu as 50 minutes, ça te va?
Voilà, oui, oui.
50.
On va essayer de tenir le timing.
Très bien. Merci, William. Et puis à tout à l'heure.
À tout à l'heure. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Donc très, très heureux de découvrir le Centre Théologie de Meilhan. Merci à Jean-Jacques et à l'équipe de m'avoir invité. Donc très heureux de pouvoir découvrir les lieux, de mener cette communication sur un propos crucial. Bon, le titre est un peu choc, l'espérance à l'épreuve du chaos mondial, un appel au sursaut spirituel. Et c'est vrai que ce n'est pas une surprise de dire que l'ambiance est plutôt morose avec tout ce qui se passe, au vu des multiples bouleversements qui impactent notre monde, j'en ferai allusion, et des incertitudes. Il y a des cycles d'assombrissement dans nos vies personnelles, et il y a des cycles d'assombrissement dans l'histoire de l'humanité. Et c'est Dominique Bourg qui disait que la décennie dans laquelle nous sommes entrés, est une décennie d'assombrissement. Je valide assez bien, surtout avec l'année 2025. On parle de crise protéiforme, polycrise, méga-crise, mais c'est plus qu'une crise. Hein ? Une crise, c'est donc on rentre dans une crise, on la gère et puis on en sort. Mais là, c'est vraiment une nouvelle ère. Et le mot n'est pas trop fort, on parle de bascule civilisationnelle, de métamorphose sociétale. Et c'est vrai que cette année 2025, je l'évoquais, avec l'élection de Donald Trump, tout ce qui caractérise la géopolitique, j'évoquerai aussi ça. Donc, on vit comme une accélération du tempo de l'histoire humaine. Et c'est un certain Lénine qui disait « Il y a des décennies où rien ne se passe et il y a des semaines où des décennies se produisent. » Mais je crois qu'on peut tout à fait s'approprier cette phrase de Lénine, qui n'est pas un père de l'Église, mais je crois que c'est assez pertinent, hein, de vraiment faire note cette phrase de Lénine sur cette année 2025 qui est bouleversante. Alors, comment vivre d'espérance dans la réalité d'un tel monde? J'évoquerai ça plus précisément. Eh bien, on vit l'année 2025, le thème de l'espérance, c'est une année qui se termine, et c'est le temps de l'Avent. Alors, allons d'abord à l'essentiel, pour être dans le souffle de l'espérance. Qu'est-ce qui fonde notre espérance, chers amis? Eh bien, c'est la Pâque du Christ Jésus. Hein, vraiment de se réajuster sur l'essentiel, la pierre angulaire de l'espérance de notre foi. Christ est ressuscité. C'est bien ça. Il sera question de cela, c'est le fil rouge, pendant tout le temps de l'exposé. Donc là est la respiration, l'âme de notre espérance. C'est une invincible force. L'espérance de notre foi est ancré dans le devenir du royaume de Dieu irréversiblement amorcé depuis la Pâque du Christ qui se poursuit aujourd'hui. Et l'espérance nous y établit ici et maintenant, non pas hors sol, mais vraiment ancré dans la chair de notre monde. Parce que souvent, il y a des compréhensions de l'espérance un petit peu éthérées, passives. Rien de plus contraire à ce qu'est la dynamique de l'espérance. Ici et maintenant, aussi assombri, chaotique que soit notre monde. Nous sommes le présent de l'espérance, disait Léon XIV à la fin d'une communication il y a quelque temps. Et ce soir, bien, je vous invite à l'image de l'enfant prodigue, rentrant en lui-même, pour réfléchir, méditer et nous interroger sur ce qui nous arrive. Le 11 décembre 2025, sur notre manière de faire humanité, de faire Église, sur notre planète Terre, unique espace de notre vie commune, hein, même s'il y en a qui spéculent d'aller sur Mars. Et c'est vrai que nous vivons, je crois que ce n'est pas exagéré de le dire, un moment crucial de l'histoire de l'humanité, j'insiste, un moment crucial. Ce temps, ce chronos, peut être un temps de grâce hors du commun, je soulignerai ça. Il peut être transformé et vécu comme un véritable kairos, c'est-à-dire un temps favorable à notre éveil, à notre réveil, à la maturation de notre vie spirituelle, de notre lien au Christ Jésus, avec nous, tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Donc à la réalisation de ce que nous sommes potentiellement. Et j'insiste, dans une dynamique nécessairement collective, citoyenne, synodale, ecclésiale. On ne peut pas vivre cela d'une manière isolée, esselée. Et Bruno Latour osait parler d'un temps apocalyptique enthousiasmant. Bravo, monsieur Latour. C'est-à-dire, de fait, les causes profondes des délitements sociétaux et planétaires interreliés sont comme dévoilées, hein, révélées. Ah, je fais allusion au chapitre 3 de Laudato Si, hein, le paradigme technocratique, on pourrait ajouter maintenant oligarchique. Nous vivons donc une ère apocalyptique enthousiasmante, un théos, qui puise au plus profond de nous-mêmes, et l'ère de la souffrance climatique et des effondrements du vivant dans laquelle nous entrons est certes celle du dévoilement de l'errance humaine qui l'a provoqué, du système qui l'a engendré, donc technocratique, oligarchique, qui se densifie, qui devient de plus en plus puissant, mais plus encore, chers amis, plus encore, cette ère est celle du dévoilement des chemins du retournement de nos esprits aux profondeurs de soi. Car Dieu nous appelle aux racines, hein, dit le poète Rilke. Dieu nous appelle aux racines, au tréfonds de nous. Si on est là, il nous amène au cœur de nous-mêmes, cette crypte du cœur, cette fine pointe de l'âme, c'est là, hein, il nous y attire. Pour entrer dans une vision autre, nouvelle, si quelqu'un est dans le Christ, dit saint Paul, 2 aux Corinthiens, chapitre 5, verset 11, il est une créature nouvelle. Verset 17, pardon. Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une créature nouvelle. Donc aujourd'hui, alors voilà la feuille de route de ce soir. Vous voyez, comment demeurer dans l'espérance de la foi au sein de notre monde assombri ? Ce n'est pas un diagnostic pessimiste, c'est ce qu'il est. En profonde mutation. Donc il y aura des mots clés, écoute, exode, paix, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça s'enchaîne. Et l'espérance va être l'initiatrice de notre citoyenneté céleste. Donc c'est éminemment politique le mouvement de l'espérance. Police, la cité, d'en haut, ici-bas. Pas une attente béate, passive, les bras croisés, au contraire. Et comment persévérer dans la joie de l'espérance ? Ce sera la conclusion avec des propositions très concrètes, hein, que je vous partagerai. Mais disons d'abord quelques mots, pour camper les choses, sur l'espérance que nous appelons donc de tous nos voeux. Et donc en français, on a la chance d'avoir deux mots, espoir et espérance. En anglais, c'est hope, il n'y a rien qu'un mot. Eh bien, l'espérance se distingue de l'espoir. L'espoir, c'est des projets, je dirais, professionnels, familiaux, amicaux. J'ai l'espoir pour ce qui va arriver, par exemple, aux élections municipales. J'espère que tel ou tel sera élu. Voilà. Il peut y avoir aussi des projets d'espoir plus ou moins éthiques, voire frauduleux, criminels, hein. Mais l'espérance, elle a une portée axiologique de valeur profonde, universelle. Ça enveloppe tout le sens de l'existence. Hein? Que ce soit l'espérance humaniste versus Edgar Morin, ou l'espérance, plus encore, J'insisterai évidemment là, notre foi, l'espérance de la foi. Donc l'espérance, elle est révélatrice, retenons bien ça, du sens de l'existence, le but. Et ça, c'est un tel soulagement de savoir vers où nous allons. Qu'aujourd'hui, le brouillard est tellement épais qu'il y a un blues. Je lisais une enquête sur la consommation effrénée de drogue qui était liée en grande partie sur l'incertitude qui pèse. Donc, il y a d'autres facteurs. Donc, l'espérance nous achemine à la réalité source que nous appelons Dieu, que Jésus appelle notre Père. L'espérance de la foi, elle est enseignante de quoi ? De la réalité substantielle, ce que nous sommes, caché sous les masques de nos pensées, du filtre de nos représentations mentales, imaginaires, toujours en deçà de ce qu'est la réalité. Et l'espérance, elle déblaye tout ça. Heureuse conscience induite par l'espérance de la foi. Elle dissipe les ombres qui opacifient notre identité essentielle par-delà notre identité partielle. C'est sûr, je suis un monsieur qui habite à Montpellier, qui a peut-être tel diplôme, etc., etc. Mais tout ça, c'est des identités réelles, mais partielles. Ce que je suis, posez-vous la question, comme disait Ramana Maharshi, un grand maître hindou, qui suis-je ? Prenez un temps silencieux de prière et laissez résonner cette interrogation. Qui suis-je ? Avec vraiment le dynamisme de la foi dans l'Esprit Saint. Qui suis-je ?
Enfant de Dieu. Enfant de Dieu.
La filiation. J'y reviendrai. Donc l'espérance réveille notre conscience anesthésiée par des conditionnements matérialiste, de plus en plus accentué par le paradigme technonumérique, qui invisibilise nos liens avec la réalité, et notamment avec notre maison commune. L'espérance guérit notre esprit, elle libère notre cœur de l'amnésie de notre filiation éternelle, ce que nous sommes. Oubli funeste de notre principe ultime. Elle est intéressante de voir l'étymologie du mot grec aletheia. A privatif, aletheia, ça renvoie au fleuve Léthé de la mythologie grecque, qui était le fleuve dans lequel l'âme se plongeait pour oublier les vies précédentes, la métempsychose. Donc, la vérité, c'est surmonter l'oubli, nous conduire à cette révélation de ce que nous sommes. Et là, si la foi nous anime, l'espérance nous révèle. Tu es enfant de Dieu et frère, sœur de tous. Ça, il faut vraiment le creuser. Donc l'espérance nous ramène dans l'axe de notre devenir éternel. Enfant de Dieu dans le Christ. À partir des réalités contingentes de notre monde présent. Donc elle nous aide à nous réancrer, à atterrir, dirait Bruno Latour. Atterrir. Bref, l'espérance de la foi nous entraîne vers l'éternel en réinitialisant ce que nous sommes appelés à être. Donc, l'espérance, on ne peut pas dormir avec l'espérance. Si vraiment on espère d'une manière active. On parle de mouvement de l'espérance, et Johanna Massi, le travail qui relie. Elle insuffle en nous les prémices de la vie avec l'éternel. On peut dire qu'elle nous christifie. Par et dans le consentement au vrai de la vie, à la rugosité de la vie, sa factualité, ses limites, notre finitude, traversée par les appels de l'infini, mais à partir de la validation de notre finitude, n'en déplaise aux ingénieurs de la Silicon Valley, qui ne veulent pas entendre ça. L'espérance nous inscrit dans la présence du Christ, lui qui a épousé notre finitude pour y consentir, et nous y entraîner. Donc la validation de notre finitude, c'est important ce que je souligne là, nous rappelle que nul ne va au ciel dans la négligence des limites planétaires, Jean-Jacques, de notre planète Terre, maison commune, des contingences de notre vie présente, notre vulnérabilité. Donc On peut le formuler autrement, l'espérance repousse en nous les stratagèmes du déni des limites. Cette limite que nous connaîtrons tous un jour, du terme de notre vie temporelle, la mort. Ce n'est pas mortifère de l'évoquer, ce grand passage vers l'autre rive, laquelle est souvent messagère prophétique de la vie qui nous attend, quand on ne veut pas être dans cette posture d'évitement. Hein. Et donc dans cette diapo là que je vous propose, c'est une certaine Clémence Pasquier, dans un article dans La Croix du 11 octobre 2024, elle dit avoir découvert l'espérance qui catalyse notre attention existentielle. J'ai découvert l'espérance quand j'ai accepté de mourir. Ouf. Pesons tous les mots là. À la lumière de la foi du Christ ressuscité. Elle est atteinte d'un cancer du sein et en soins palliatifs depuis 2 ans et demi. Et voici ce qu'elle dit, donc vous avez le texte. « Je crois que l'espérance est liée à la vérité, non oubli. Hein ? Tant que je n'acceptais pas la perspective de la mort, je ne pouvais pas être dans l'espérance. Cela vaut pour toutes les situations. Comme chrétiens, nous pouvons avoir une tendance à fuir les situations qui nous désespèrent, politiquement, écologiquement, humainement. C'est normal que cela nous révolte, mais il me semble que l'espérance nous pousse à nous tenir justement là, dans le réalisme de ces situations, à les regarder avec vérité. Le courage de ce regard posé sur la réalité charnelle des choses, avec leur fluctuance, leur turbulence. Et ça renvoie évidemment à la fameuse phrase de Georges Bernanos, que vous connaissez certainement, « L'espérance est une détermination héroïque de l'âme. » C'est difficile d'espérer. Mais c'est possible, car auprès de Dieu, tout est possible, dit un passage de l'Évangile. Et la plus haute forme de l'espérance, je cite toujours Bernanos, est le désespoir surmonté. Donc dans les périodes d'assombrissement. Individuellement parlant, mais collectivement. Il s'adressait en 1944 à des étudiants brésiliens à Rio de Janeiro. Espérer contre toute espérance, dit saint Paul aussi. Et c'est l'abandon confiant durant les phases nocturnes de nos vies, dirait Thérèse de Lisieux, Jean de la Croix. Hein, c'est ces moments de déstabilisation où les appuis s'évanouissent pour s'en remettre à autre que soi. Donc nous sommes prêts, alors maintenant, chers amis, à aborder le point central. Comment vivre d'espérance dans un monde assombri à l'épreuve d'un chaos de plus en plus mondialisé. Oh là là, là c'est un peu fight, hein, cette diapo. Voilà, donc essayons d'ouvrir les yeux. Sans surinformation, hein, mais il faut être informé. Sans ça, on appelle ça l'infobésité quand on a trop d'informations. Et tout de même, l'espérance nous ouvre les yeux, hein, sur la réalité, parce que c'est dans l'incarnation continuée que nous pouvons nous y inscrire en Christ. Donc lucidité. L'espérance, c'est la vertu du ressaisissement du réel, reconnexion sensorielle, dans notre vie présente, ici et maintenant, dans l'aujourd'hui, où germe, où avance le bon grain du royaume, en vue de nous réajuster à l'appel de l'Éternel, notre Père en Christ. Donc c'est la dynamique du Christ ressuscité, là, de prendre conscience primordialement que la vie nous est donnée. Hein ? Il est 8h34, le 11 décembre 2025 après Jésus-Christ, nous vivons. Et si on prend conscience là, que la vie nous est donnée, l'air que nous respirons. C'est important de quelquefois de mettre pause sur la réflexion et de penser que la vie nous est donnée à chaque instant. Nul ne se la donne, même s'il y a une certaine autonomie biologique. Donc la vie est un don, et cette vie est aujourd'hui violentée comme jamais. Donc revenir toujours à cette capacité d'émerveillement quand on prend conscience que la vie nous est insufflée. C'est Chesterton, je crois, qui disait « Le monde ne mourra pas par manque de merveille, mais par manque d'émerveillement », quelque chose comme ça. Donc, crise géopolitique, je ne vais pas vous lister tous les sujets de sinistrose, mais tout de même, on ne peut pas passer trop rapidement. Les conflits tragiques, Gaza, l'Ukraine, Soudan, Congo, la guerre en Thaïlande et Cambodge, bon, Venezuela, c'est pas bon, et bien d'autres lieux. Et c'est surtout ce césaro-impérialisme, pas uniquement Trump, Trump certainement, mais Poutine, Xi Jinping et d'autres, qui mettent en place une stratégie où vraiment c'est le recul de l'état de droit, des régulations multilatéralistes qui s'évanouissent de plus en plus, en tout cas qui deviennent sourdes. L'ère de la post-vérité, de la désinformation, vérité alternative. Donc le climat mondial chaotique où chacun entend imposer sa vision égocentrée. C'est la loi du plus fort fondée sur la transaction financière, au détriment des critères juridiques, sociaux, etc. Vous avez certainement peut-être l'information de la nouvelle stratégie de sécurité nationale des États-Unis. Ça fait froid dans le dos quand on se donne la peine de lire un petit peu les comptes rendus de ces 33 pages, qui est la feuille de route du gouvernement Trump. Voilà. Donc, au plan politique, économique dans notre pays, bon, c'est pas trop. C'est quand même assez clair que nous sommes dans une, d'après les politologues en France, donc une crise aussi grave que celle qu'a connue après la Deuxième Guerre mondiale, la Quatrième République et plus. Le scepticisme démocratique dans notre pays. On vit un moment qu'on appelle de décomposition démocratique. Sondage chez les jeunes, assez récent, de l'IFOP, 41% de jeunes préféraient un doute chez quelqu'un de fort plutôt qu'une démocratie. C'est Bertolt Brecht qui disait que la démocratie, le fascisme n'est pas le contraire de la démocratie, mais son évolution partant de crise. Et donc le recul de la démocratie, 71% de régimes autocrates contre 48% il y a 10 ans. Crise sociétale, socioculturelle et religieuse, la polarisation identitariste, tribale, fragmentation sociale, fondamentalisme, et donc le recul du dialogue interreligieux, œcuménique, toutes les considérations par rapport à l'écologie intégrale. Ça, c'est vraiment deux piliers, on l'évoquait avec Jean-Jacques, très importants à conserver dans tous les espaces de formation. Dialogue interreligieux, œcuménique, interspirituel et écologie intégrale. C'est vraiment très important de conserver ces deux repères. J'évoque aussi la dénatalité, l'érosion, à peu près dans tous les pays, à part dans l'Europe, dans l'Amérique centrale et l'Afrique subsaharienne. Évidemment, j'ai gardé les deux défis inédits pour la fin. Écologique, le délitement écologique du système Terre. La Terre est comparable à un grand corps malade, avec plusieurs métastases. Parce qu'il n'y a pas que le climat, on est à 1,36 degrés, dit Valérie Masson-Delmotte. On franchira les 1,5 degrés certainement dans les 3-4 prochaines années. La biodiversité qui s'effondre, la pollution d'hexane, cadmium, un nouveau PFAS, le TFA là, qu'on a découvert, les nanoparticules plastiques, enfin j'en passe. L'épuisement des ressources non renouvelables, le cycle de l'eau bouleversé, la cryosphère qui fond. On dit que d'ici 2030-35, il n'y aura plus de glaciers dans les Pyrénées. Il y a 220 000 glaciers sur le globe, à peu près. Donc la moitié fondrait d'ici 2070, ou la savanisation de l'Amazonie. Donc il y a des piliers comme ça, les forêts tropicales, la cryosphère, les coraux. À 2 degrés, c'est pratiquement tous les coraux qui périraient, qui est une matrice de la biodiversité sous-marine. Bon, voilà, je vous fais grâce de tout ça. Enfin, on sait très bien que notre Terre est très malade. C'est Hubert Reeve qui disait « Nous saccageons notre planète. Nous avons entrepris une guerre contre la nature. Si nous gagnons, nous sommes perdus. » Ça, c'est à méditer. Donc, inversons les termes de la bataille. Entrons en lutte, sans oublier la contemplation, pour vraiment faire cette guerre contre ceux qui détruisent la planète. Il y a une posture puissante de lutte et de résistance. Voilà. Et le dernier point, l'IA générative, parce que l'IA, elle existe depuis des décennies, mais l'IA générative depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans. Donc ce défi de la révolution technonumérique, outre l'impact environnemental, une recherche sur Google, tel taux énergétique, mais sur ChatGPT, c'est 10 fois plus, avec les data centers, etc. Et donc le coût socio-professionnel, tous les emplois qui vont être détruits, Amazon commence à le faire. Mais plus encore, et là je vous renvoie à Maxime Fournès, ingénieur en informatique, un système qu'on ne comprend pas, la politologue Asma Mala, Cyberpunk, c'est son dernier bouquin, et le philosophe Eric Sadin. Donc on externalise nos capacités cognitives de plus en plus, et donc à terme, évidemment, ça pose vraiment de graves problèmes d'abêtissement, il faut dire, donc en tout cas de démusculisation de notre cerveau. Hein. Voilà, je vous renvoie à ces 3 auteurs. Voilà, comment entrer dans l'espérance, j'arrête sur ce diagnostic, mais c'est important d'ouvrir les yeux, dans la joie de l'espérance, dans la concrétude d'un tel monde à partir de ce constat. Vers quoi, vers qui, s'orienter et comment? Donc explorons les voies maintenant de l'espérance. Écoute, exode, paix, l'écoute du cœur. Ça, c'est un merveilleux labeur, jamais terminé. On est tous des apprentis chrétiens, hein, toujours en quête de sens, jamais terminé. Pour une exode libératrice, un exode libérateur, pardon, une paix militante, émancipatrice de nos servitudes, conditionnements, colonisation intérieure. Et donc, entrer dans l'espérance, c'est vivre dans la conscience du royaume qui vient. L'espérance nous incorpore dès à présent à la cité des cieux, au commun de la cité des cieux. Et c'est pour ça qu'elle va être formidablement active, proactive dans l'aujourd'hui de notre monde. Et l'espérance, on peut dire, c'est la conscience politique du royaume qui vient, j'insiste. La conscience politique du royaume qui vient. Alors l'écoute. L'écoute du don de la vie, de son appel. C'est vraiment la première action, parce que souvent on parle de contemplation comme quelque chose de passif, c'est une action, écouter. Il faut vouloir. Action primordiale vers laquelle l'espérance nous attelle et nous attire. L'idéal du sage est une oreille qui écoute, dans le livre du Siracide. Donc pas de société viable, convivial, sans écoute. Écoute mutuelle, une attention. L'écoute est la condition primordiale du vivre ensemble, social et ecclésial. C'est la pierre angulaire. Shema Israël, dans la règle de Saint-Benoît. Nous l'avons là, cette image-là. Donc l'écoute du cœur nous engage sur un cheminement incessant vers le centre de ce que nous sommes. En prendre le temps personnel et ensemble d'être à l'écoute. Une attention silencieuse prolongée par l'élan d'une foi vive. Donc c'est un amour qui répond à un amour prévenant. Donc l'écoute prolongée, par cette écoute, les sonorités, on peut dire, de l'éternel se diffusent silencieusement jusqu'aux strates les plus profondes de notre intériorité. Et c'est là que nous pouvons nous munir de cette persévérance dans la lutte, dont il sera question plus loin. Donc, elle nous pose donc cette écoute dans le moment présent, aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc, l'insaisissable instant présent, c'est mystérieux, le temps. L'instant présent. Le cardinal Newman disait que c'était le sacrement de l'éternel. Magnifique pensée, l'instant présent. Et quand on écoute, on est davantage dans l'instant présent, Eh bien, on peut dire que ce moment d'écoute est le point de contact et d'audition des appels de l'Éternel vers lequel l'espérance nous entraîne quand on écoute. On se réajuste à ce que Dieu attend de nous avec le talent, les limites que l'on a pour être davantage, déployer davantage ce que nous sommes au service de tous. Donc, contempler, c'est écouter ce qui se donne à entendre et à voir, d'où la nature qui s'offre à nous, ou le prochain, les deux. Contempler, c'est écouter ce qui se donne à voir et à entendre, se laisser saisir. Et le pape François disait que à celui, celle qui prie, eh bien, s'ouvre la porte, ouvre, pardon, celui qui prie, celle qui prie, ouvre la porte à l'espérance. L'espérance est là, mais avec ma prière, j'ouvre la porte. C'est très, très beau, très juste. Donc, prier, c'est écouter avec son cœur, avec le fond de son être, dépasser la surface de ce que je suis, les couches superficielles, on va dire, en ouvrant le fond de son âme à autre que soi, d'être en cette conviction, gratitude d'être aimé, sauvé par un autre. Assurément, je poursuis en citant le pape François, écoutez bien, la prière est la première force de l'espérance. Lorsque vous priez, l'espérance grandit, elle va de l'avant. Et inversement, fin de citation, inversement, l'espérance s'incline à la prière. Il y a donc une synergie spirituelle, prier conforte l'espérance, espérer suscite la prière. Jacques Ellul allait jusqu'à affirmer qu'est menteur celui, celle qui dit espérer, mais qui ne prie pas. Eh oui. Comment se laisser agir s'il n'y a pas cette ouverture à celui qui m'entraîne dans l'aujourd'hui du royaume qui vient? Donc cette écoute persévérante qui prédispose à l'espérance, elle entraîne sur des chemins que d'aucuns n'auraient emprunté ou même deviné. Pourquoi ? Parce que c'est déconcertant de se laisser entraîner par autre que soi, pas de rester calfeutré dans son moi égotique. Parce que cette dynamique opère ce que j'appelle la dépollution du ciel de notre âme. C'est Élisabeth de la Trinité qui parle du ciel de notre âme. Et il y a une dépollution, la désartificialisation de nos terres intérieures, parce que c'est bétonné en nous, hein. Il y a des zones qu'il faut débétonner. La décolonisation de notre mental, le déconditionnement de nos modes de vie, tout ça commence par cette écoute, pour se laisser conduire par autre que soi, et par des chemins qui sont souvent déconcertants, déstabilisants, dérangeants. C'est l'intranquillité. Marion Miller-Collard, la pasteur qui parle d'intranquillité à partir du moment où on cultive cette conversion permanente. Et évidemment, l'espérance, quand on la laisse vivre ainsi, va générer en nous l'espérance robuste, ferme, la confiance. La confiance, c'est la ferme espérance tendue vers la certitude d'être exaucée dans l'attente d'un bien. C'est Thomas d'Aquin que je cite là. Et du bien qui surpasse tout bien, l'heureuse vie avec l'Éternel, mais aujourd'hui. Et j'en viens finalement à réhabiliter le sens de l'optimisme. Bon, c'est Bernanos qui disait que les optimistes sont des imbéciles heureux. Bon. Mais quand même, je réhabilite l'optimisme en disant que l'optimisme foncier radical de la foi, eh bien, c'est la certitude d'être sauvé en espérance, mais on est sauvé. Donc il y a un optimisme foncier dont nous, chrétiens, nous pouvons témoigner. Avançons. Oh, pardon. Et c'est pour cela que j'évoquais ce mouvement vers autre soi, le mouvement exodial, donc j'ai créé un néologisme là, induit par l'espérance. Donc c'est l'élan d'une pérégrination, de retrouver notre statut de pèlerin, de migrant vers le ciel. On est tous des migrants, des pèlerins. Pas de sédentarisme dans le dynamisme de la foi et de l'espérance. Sinon, c'est l'embourgeoisement qui, qui vraiment paralyse l'élan de l'esprit. C'est pas de la magie, l'espérance. Et là, c'est le fameux texte de Peggy. L'espérance qui entraîne l'amour et la foi. La foi que je préfère, dit Dieu, c'est l'espérance. C'est magnifique. Vous avez le texte là. Sur le chemin du salut, sur le chemin charnel, sur le chemin raboteux du salut, le chemin raboteux du salut, le vrai de la vie. Sur la route interminable, sur la route entre ces deux sœurs, la petite espérance s'avance. Le peuple chrétien n'a de regard que pour les deux grandes sœurs, foi et charité. Il ne voit quasiment pas celle qui est au milieu. Il croit volontiers que ce sont les deux grandes qui traînent la petite par la main. Les aveugles qui ne voient pas, au contraire, que c'est elle au milieu qui entraîne ses grandes sœurs, et que sans elle, elle ne serait rien. C'est elle, cette petite, qui entraîne tout. La petite espérance s'avance, et en réalité, c'est elle qui fait marcher les deux autres vers celui auquel Jésus nous attire, hein, l'œuvre de l'Esprit vers le Père en Christ. Donc, l'espérance inspire au plus profond de nous la prière et la vie du Christ. Hein, l'expression de son être filial, Abba, Père. Donc, on peut dire que l'espérance est l'émissaire de notre filiation à l'Éternel dans le cours du temps, nos vies présentes. Et finalement, l'espérance actualise la signification même de l'existence, existere, sortir de soi, étymologiquement parlant. Important de se rappeler ça. Aller vers ce pourquoi et ce pour qui j'existe afin de vivre l'exode libérateur de notre transformation pascale. Vous voyez, l'ultime destinée vers laquelle porte l'espérance, elle est au-delà. Au-delà, mais dans la concrétude de ce monde où advient le royaume germinalement parlant. Donc, la démarche exodiale, c'est aller hors de soi en empruntant de nouveaux chemins. Et alors, comment acquiescer délibérément, de jour en jour, jusqu'au dernier, au dynamisme exodial qui, je crois, est intrinsèque au mouvement de l'espérance? Eh bien, c'est la paix. Être serviteur de la paix du Christ, militante émancipatrice de l'espérance, libératrice. Mais il faut s'interroger sur la nature de la paix promise par Jésus. Et un passage de l'Évangile redoutable, hein, il faut l'accueillir. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. » Donc, la paix communiquée à la manière du monde s'apparente souvent à une tranquillité à court terme, synonyme de sécurité, éphémère, fragile, non dépourvue de bienfaits légitimes. Mais cette paix ne peut être qu'aléatoire, fragile, passagère, voire illusoire, et souvent grevée de préjugés, voire de méfiance à l'égard de ce qui est étranger. Et elle tend à nourrir insidieusement nos tendances au repli sur soi. Donc la paix dont il est question dans l'Évangile, elle nous communique l'horizon de l'Éternel, que notre cité n'est pas ici-bas mais au-delà. Je cite Hébreux 11. La paix du Christ, elle dépose en nous les arts du royaume, qui est la présence du Christ, celle de son esprit. Et elle révèle alors, j'y reviens, notre identité essentielle, nous sommes tous citoyennes, citoyens du royaume qui vient aujourd'hui. Et donc elle est force d'engagement pour conforter la croissance du bon grain aujourd'hui, hein, de la charité que j'appelle les vertus éco-humanistes, amour-compassion, solidarité, entraide, justice, partage et mesure, sobriété. Voilà, et tout ça est focalisé vers cette vision extraordinaire. On a une foi incroyable, hein, tout de même, hein, surtout quand on lit un passage que je vais vous lire de la première de Jean, chapitre 3, versets 2 et 3. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté pleinement. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables à Dieu, donc, car nous le verrons tel qu'il est. Quiconque met en lui une telle espérance se rend pur, s'ajuste, comme lui-même est pur. Hein, celui qui espère s'ajuste à ce que Dieu est. Vous voyez la force de l'espérance roborative. Donc pour entrer dans cette conversion, et donc il y a nécessairement être en dissonance avec un monde réfractaire qui s'oppose à cette perspective. Et c'est un philosophe hindou inclassable, Yudu Krishnamurti. Il a cette phrase géniale. Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale d'être bien adapté à une société malade. Intéressant ça, hein? Surtout aujourd'hui. Hein? Bon, j'espère qu'on n'est tous pas trop adaptés. Parce qu'on peut inverser, nous pouvons dire que qu'être peu ou prou en dissonance avec une société malade, mal en point, est un signe de bonne santé mentale. Hein? Voilà donc le diagnostic. Ne soyons pas donc mal à l'aise de se sentir éco-anxieux. Ne pathologisons pas ce qu'on appelle l'éco-anxiété. C'est normal d'être un peu anxieux. Si on n'est pas inquiet avec tout ce qui se passe, allez voir un psy. Hein. Mais il faut gérer cette émotion, évidemment, pour qu'elle ne tombe pas en dépression. Ça, c'est tout le défi de la gestion des émotions. Voilà, donc en fait, vivre dans la résistance mentale existentielle à l'hégémonie du référentiel de valeur générateur d'une vision séparatiste, dévastatrice avec la nature, ben cette posture de résistance, elle est juste et bonne. Hein? Ce sont là les symptômes d'une bonne santé intérieure, spirituelle. Hein, les mots de l'apôtre Paul sont toujours actuels dans Romains 12, 2. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser. Les imaginaires, notre vision du monde, pour discerner quelle est la volonté de Dieu aujourd'hui, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire. Voilà. Donc, plus que jamais, soyons des contemplatifs résistants ou des méditants militants. C'est Moltmann, le grand théologien de l'espérance, qui écrivait ça, vous avez la citation. Paix avec Dieu signifie conflit avec le monde. Tiens, tiens. Car les chars de l'avenir promis s'enfoncent inexorablement dans la chair de tout présent inaccompli qui résiste. Et Paul Valéry a cette phrase remarquable. L'homme est un animal enfermé à l'extérieur de sa cage, il s'agite hors de soi. L'humain du 21e siècle, formaté au matérialisme technonumérique, l'économisme, vit comme séquestré hors de lui-même, extérieur à son intériorité, à la profondeur de son être. Et donc il faut, comme dit l'enfant prodigue, il faut entrer au-dedans de soi. Donc pour sortir de soi, c'est paradoxal, le chemin est intérieur, vers le centre de l'âme où Dieu nous appelle à aller vers autre que soi, avec lui. Je ne peux pas être en charité si je ne descends pas au fond de moi-même pour être dans un juste altruisme. Sinon, je reste enfermé à l'extérieur de mon fort interne et je ne peux pas être dans cet altruisme. Alors, je vais avancer parce que je vois. Donc, en fait, pardon, c'est en fait vivre la conversion écologique, formule qu'avait conçue Jean-Paul II, audience générale du 17 janvier 2001, qui a été reprise ensuite par Benoît XVI et surtout le pape François. La conversion écologique, au sens de l'écologie intégrale, je pense qu'on peut dire qu'elle est une actualisation de la conversion évangélique. C'est-à-dire qu'elle tient compte du contexte de notre monde actuel et répondre à l'appel de Dieu, viens et prends soin du vivant. Aimer Dieu qu'on ne voit pas sans aimer le prochain que l'on voit, dit la première de Jean, c'est pas bon. Et le pape Léon XIV dit, aimer Dieu qu'on ne voit pas sans aimer la création que l'on voit, c'est faire offense à Dieu. C'est extrêmement juste. Donc en fait, la méga crise socio-écologique actuelle, positivement envisagée, c'est une heureuse alarme, une bienheureuse alarme. Ce qui nous permet de mieux saisir la place de l'espérance dans notre monde. Elle permet de nous libérer du conditionnement d'un système généré Donc, je le disais, par une vision techno-économique peu compatible, pour le moins, avec la dynamique interrelationnelle solidaire qu'est l'essence même de la vie de son appel. Donc, cet affranchissement n'est autre que l'œuvre de l'espérance de la foi. Et bien sûr, sortir de soi ne va pas de soi. Impossible d'entrer en exode sans être touché, entraîné par autre que soi. C'est le propre de l'amour. Et donc, ça nous invite à mettre à jour toujours l'espérance de la foi. Je vais mettre dans le conservatisme. Et c'est ce que dit magnifiquement Bruno Latour, donc il est en photo là, le regretté Bruno Latour, en 2021. Il disait, c'est donc à la fin de la période de la Covid, hein, « Mes amis prêtres se plaignent beaucoup, mais la situation n'est pas catastrophique. Au fond, l'époque les aide à rejouer leur trésor. » C'est tout chrétien, là, pas que les prêtres. « Car c'est bien un trésor que celui du religieux, la reliance à Dieu en Christ, mais il doit être rejoué, pas conservé. » C'est le problème classique depuis toujours. Ce trésor n'en est un que s'il est remis en jeu. S'il est conservé, il est mort. C'est à méditer. À méditer. Alors qu'est-ce qu'il veut dire, Bruno Latour ? Réapprécier l'intelligence de notre foi dans le contexte culturel ambiant, des mutations historiques, surtout aujourd'hui, où les choses sont tellement bouleversantes, impactantes, déstabilisantes. Autrement dit, la méga-crise actuelle dont le sisme est socio-écologique planétaire est le vecteur, le plus manifeste, peut être perçue comme l'opportunité d'une heureuse remise en question personnelle et collective de nos modes de vie, et plus encore de nos imaginaires. Dieu nous visite par tous ces bouleversements. Et il fait retentir d'une manière novatrice son appel originel « Que fais-tu de ma création ?» Dieu nous presse en quelque sorte à retrouver et surtout à restaurer notre lien avec la création. On peut dire un lien consubstantiel. Oui, car nous sommes Adama, terreux, terriens, il ne faut pas l'oublier ça. Consubstantiel par notre corporéité aux éléments cosmiques qui ont concouru à l'apparition de la vie sur Terre. Ouais, il y a 4,5 milliards d'années quand même. Hein, tout ça, ce miracle. Et nous l'avons désastreusement oublié. Ce serait trop long d'évoquer la genèse de tout ça. Donc en ce temps de bascule civilisationnelle, mondialisée, discernons l'aubaine qui nous est donnée. Vivre la Pâque de notre moi profond, si nous consentons à rejouer le trésor de la foi qui espère. Laissons-nous bousculer. De reconnaître et surtout de consentir à notre condition de pèlerins, de migrants en marche, les uns avec et par les autres, vers l'autre rive. Donc devenir humain, pleinement humain, c'est cheminer. Par des modes de cheminement toujours renouvelés. Et tant mieux, on ne peut pas se reposer sur des lauriers quand on est animé du dynamisme de la foi qui espère. Et tant mieux, c'est une source de joie. La joie, elle est là, dans l'action, dans une démarche, on va dire, synodale, ecclésiale, les uns avec les autres. La joie, elle est dans l'action inspirée par l'Esprit du Christ. Et il faudrait dire à chacun d'entre nous, paroissien, paroissienne, que l'étymologie du mot paroisse, para-oikoi, c'est passer, habiter à côté, séjourner comme en passant, être des résidents étrangers. Mais enfin, proclamez-le aux paroissiens, paroissiennes. Et à nous, je suis paroissien. Ne jamais s'installer, c'est la pire des choses. Bien-aimés, je vous exhorte, vous, comme des résidents étrangers, paroikos, paroisse, et des étrangers de passage, parés, démoche, la même racine, car notre citoyenneté est dans les cieux. Philippiens 3, 20. Un des derniers points maintenant. L'espérance inspiratrice du sens politique de la cité à venir. Donc c'est un point que je précise davantage, qui a été évoqué avec la paix du Christ. De nombreux passages de l'Évangile mettent en évidence la puissance disruptive du message du Christ. Disruptive, hein, c'est un anglicisme de l'anglais « to disrupt », perturber, bouleverser, déranger, changer. Et c'est vrai que quand on lit des passages de l'Évangile, notamment chapitre 10, l'Évangile de Matthieu, « Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Ben dis donc, c'est... Hein? « Soyez donc rusés comme des serpents, il ajoute, purs comme des colombes, méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux, etc. » C'est pas Jojo. « Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu non pas apporter la paix, mais le glaive de sa parole. » Donc, pour résumer, donc le message de Jésus, l'espérance que génère l'Évangile, peut-elle être à la fois fédérative, élevée de terre, j'attirerai à moi tous les hommes, et disruptive? Ben bien sûr que oui. Vois les deux dernières béatitudes, la persécution des artisans de justice, de celles et ceux persécutés à cause de son nom. Il y a toujours cette résistance de livrer, la virulence de livrer sur le bon grain. Ce n'est pas une vision manichéenne, c'est le constat jusque dans notre intériorité. C'est du dedans, du cœur de l'homme que sortent toutes les pensées dysfonctionnelles, perverses, dit Jésus, dans Matthieu 7, 21, Marc 7, 21, 23. Donc, et là je cite Étienne Lizoum, « Ne croyons pas que nous puissions corriger quoi que ce soit au monde extérieur que nous l'ayons d'abord corrigé en nous. » Donc l'espérance de la foi, donc, infuse en nous une révolution évangélique, porteuse d'une double charge missionnaire, fédérée et disruptée. C'est-à-dire, fédérée au sens évangélique du terme, ne peut se réaliser sans opérer une forme de rupture, de disruption avec les négateurs lucides, volontairement et cyniquement sourds aux appels de la clameur des pauvres et de la terre. Enfin, soyons lucides par rapport à ça. Je vous renvoie à la déclaration des conférences épiscopales du Sud global, Asie, Afrique, etc. Un appel à la justice du climat et à la résistance. Donc c'est un document avec des déclinaisons très concrètes pour opérer cette résistance. Donc en fait, on voit bien que l'intensification des bouleversements sociétaux actuels et écosystémiques terrestres semble agir à la manière d'un accélérateur de la révélation, d'un catalyseur de la révélation. Et c'est ainsi que, par rapport à cette accélération, eh bien, le mot résistance apparaît de plus en plus incontournable. Ce texte magnifique de Christian Bobin, il y a une dizaine d'années, « Il est possible que le monde moderne soit une sorte d'entreprise anonyme de destruction de nos forces vitales sous le prétexte de les exalter. Il est possible que ce monde moderne que nous avons fait surgir et qui nous échappe de plus en plus soit une sorte de machine de guerre impavide. Les livres, la poésie, certaines musiques peuvent nous ramener à nous-mêmes, nous redonner des forces pour lutter contre cette forme d'éparpillement, de dispersion. La méditation, la simplicité, la vie ordinaire, voilà qui donne des forces pour résister, cette sobriété validée. Le grand mot est celui-là, résister. Résister. Et là, j'en viens à un commentaire du psaume 13, ou 14 selon les traductions. Ceux qui mangent le peuple de Dieu quand ils mangent leur pain. Écoutons bien. Dans son fou le déclare, dans son cœur, pardon, le fou déclare pas de Dieu. Tout est corrompu, abominable. Pas un homme de bien. Des cieux, le Seigneur se penche vers les fils d'Adam pour voir s'il en est un de sensé, un qui cherche Dieu. Tous ils sont dévoyés, tous ensemble pervertis. Pas un homme de bien, pas même un seul. N'ont-ils donc pas compris ces gens qui font le mal, l'injustice là. Écoutez bien, quand ils mangent leur pain, ils mangent mon peuple. Jamais ils n'invoquent le Seigneur. Donc c'est une invitation claire à résister à ce qui mange le peuple de Dieu quand ils mangent leur pain. Mais quel est ce pain dont la dévoration est synonyme de dévastation sociale et de prédation environnementale? Actualisons la chose. Je crois que la réponse saute aux yeux. Il ne faut pas hésiter à le formuler. C'est le pain de la fraude fiscale. C'est le pain d'une exploitation esclavagiste. C'est le pain de l'élevage industriel, de la déforestation, de la frénésie hyper-extractiviste, productiviste, consumériste, le pain de la folle course à une croissance aveugle, le pain de la cupidité et de l'avidité, le pain de maman, le dieu argent. C'est Basile de Césarée qui disait, et le pape François l'a cité souvent, l'argent c'est le fumier du diable. Intéressant. Il faudrait que Elon Musk médite sur ça, c'est l'homme le plus riche du monde. Donc l'espérance vive nous engage, entraînant avec elle, dirait Peggy, foi et charité pour travailler à l'émergence de son utopie, la cité de Dieu. Donc l'espérance est vraiment vivre dans la conscience du royaume qui vient dans l'aujourd'hui de notre monde. Et c'est pour ça que l'espérance de la foi, elle inspire le sens politique de la cité des cieux aujourd'hui. L'espérance, c'est la conscience du mystère du royaume qui vient, qui advient, sa justice fondée sur l'agapé. Et en ce sens, c'est le pape Pie XI, mais le pape François a repris dans Fratelli Tutti, la politique est une des plus hautes formes de la charité, l'engagement dans la cité. Alors, envisageons ensemble, au sein de nos paroisses, associations, de nos proches, la prise en compte d'une écologie intégrale dans l'animation liturgique et la prière commune, le projet d'un jardin partagé, d'une ressourcerie paroissiale, d'une épicerie solidaire, de réévaluer nos habitudes alimentaires, de revoir nos modes de transport, l'éthique de nos placements bancaires, l'isolation de son logement, des bâtiments de l'Église, de favoriser réparabilité et recyclage, d'interroger la finalité de nos projets professionnels, de rejoindre des initiatives éco-citoyennes, de s'impliquer dans l'organisation de la vie de notre cité, de collaborer à l'accueil et à l'insertion sociale des plus démunis, migrants et autres déracinés climatiques, etc., etc., etc. Ne l'oublions jamais, Christ, l'Esprit du Christ ressuscité, est présent en tout être humain. Une présence en quelque sorte démultipliée lorsque deux ou trois sont réunis en son nom. Quand je vois que l'heure tourne, je vais avancer davantage. Donc souligner que l'histoire de l'humanité vit une Pâque continuée. Celle-ci oriente ultimement notre monde, non pas vers une catastrophe, littéralement tournée vers le bas, mais vers une métastrophe tournée vers le haut. Pâque continuée signifie une Pâque participée en sa double face, heureuse et douloureuse. Donc Christ avec nous tous les jours. Je termine bientôt. Voilà. Donc là, j'aime beaucoup ce passage que je vous propose de Jean Sullivan. L'espérance, c'est la peur transfigurée par la persévérance d'une foi vive. C'est de la confiance. Car auprès de Dieu, et donc il faut cultiver cette proximité avant tout par l'écoute qui nous fait sortir de soi à partir de notre intériorité pour être dans le service de la paix du Christ. Et alors, comment persévérer dans la joie de l'espérance? C'est la conclusion. Eh bien, je vous propose une ecclésia systémique, une feuille de route. Synodalité active, expression du bon grain, celui du royaume qui vient. Donc c'est de créer des cellules en interaction, synergie, à l'image paulinienne des différents membres formant un même et unique corps. Donc il y a 5 cellules dans ce corps en coordination, donc c'est des choses qu'il faut essayer de porter là où on est localement. Cellules de prière commune. Cellule d'immersion contemplative dans le jardin de la création. Cellule d'information sur l'état de notre monde, notre maison commune. Cellule d'action, de création d'initiatives nouvelles. Impulser de nouvelles initiatives, des micro-réalisations de notre monde. Favoriser l'éco, Nomi circulaire, jardin partagé, agroécologie, etc., café associatif. Et ça fleurit de toutes parts. Hein. Faire circuler les bonnes nouvelles qui sont ici et là, parce que le mur qui croule fait toujours plus de bruit que le blé qui pousse, dit un proverbe. Donc il faut promouvoir ces bonnes nouvelles pour porter la bonne nouvelle, les différents écolieux chrétiens et autres. Cellules d'échange, débat, bilan et prospective, axées sur de nouveaux imaginaires, thématique elle-même fécondée par le dialogue, les échanges. Et cellules de convivialité, ça c'est important. Célébrer, se réjouir ensemble dans l'espérance invincible de notre foi, les multiples vecteurs d'expression artistique. Voilà. Donc, un autre monde, chers amis, se conçoit toujours ensemble. Dans l'écoute du cœur, ouvert à tous, en celui qui porte tout, Dieu notre Père, au-delà de tout, mais dont le dessein d'amour est révélé dans celui qui est parmi nous, au milieu de nous, avec nous, Jésus-Christ, communiqué dans son royaume qui vient, joyeux de notre espérance. Vous êtes, nous sommes, le présent de l'espérance. Voilà, je vous remercie.
Merci, merci William. On va prendre un petit temps de réflexion et de questionnement. Et je propose à Pierre, membre du groupe TEC, de nous donner de la feuille de route.
Tu as un peu exposé. William, est-ce que tu peux revenir sur ton transparent juste avant ?
Là ?
Celui-ci.
Ah oui.
Voilà, tu nous as proposé comme quelque chose qui est une feuille de route, en quelque
c'est ça,
sorte.
Ouais.
Je crois que c'était ton objectif, que tu as abondamment communiqué et sur lequel tu as développé largement. Ce qu'on voudrait vous proposer, c'est de nous répartir en petits groupes dans lesquels la parole puisse vraiment exister, c'est-à-dire maximum 5-6 personnes. On peut peut-être se mélanger. Je vois qu'il y a... Il y a un gradient de génération de gauche à droite,